Europie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'Europe a 60 ans et un jour. Elle est née le 25 mars 1957 à Rome par la volonté politique des dirigeants de 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et les 3 pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Elle est née d'une réussite et d'un échec. La réussite, c'est la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, autrement dit la mise en commun au début des années 1950 du charbon et de l'acier dont on fait les canons, quelques années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'échec, c'est la CED, la Communauté Européenne de Défense, c'est-à-dire une armée européenne que la France a en son temps rejetée. En 1957, l'Europe est déjà à la croisée des chemins, un peu comme aujourd'hui, serait-on tenté de dire, et sans la vision et la détermination de quelques grands hommes comme Jean Monnet en France, Konrad Adenauer en Allemagne ou Paul-Henri Spaak en Belgique, l'Europe aurait pu continuer à balbutier, voire à sombrer. Le 25 mars 1957, en signant le traité de Rome, les 6 pays fondateurs donnaient naissance au marché commun et à ce qui allait devenir l'Union européenne. Séquence émotion avec Paul-Henri Spaak.
Aucun endroit ne pouvait mieux convenir que la ville éternelle pour être le précieux témoin de nos espoirs. Rome, qui a la vocation de l'universel, devait être le seuil de l'Europe. Savourons un moment de triomphe au Capitole. Sans oublier la phrase que l'esclave murmurait aux généraux vainqueurs, « Souviens-toi que tu es mortel. » Dans la fragilité humaine et dans le succès de cette grande entreprise, dans cette heure apaisée et heureuse, tâchons de léguer au futur la source d'inspiration que nous puisons dans l'immortel passé.
Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors et le président du mouvement européen France. Le son grésille, l'élocution est datée indiscutablement, mais quelle gravité dans l'émotion.
Absolument, un sens tragique de l'histoire. Les pères fondateurs que vous avez cités au début de cette émission.
Il y en a d'autres, je ne les ai pas tous cités.
On a eu aussi les fils, avec Delors, Kohl, Mitterrand, Felipe González. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, puisque nous étions à Rome hier, on cherche un peu les petits-fils et les petites-filles, devrais-je dire. On n'est pas dans le même lyrisme, on a le même engagement personnel des responsables politiques aujourd'hui. Et en même temps, ce qui semble se dessiner, justement parce que le contexte géopolitique redevient instable avec les menaces autour de nous et puis l'allié américain qui en a peut-être plus un. Peut-être que les chefs d'État et de gouvernement actuels ou ceux qui seront désignés notamment en France et en Allemagne reprendront-ils un peu de cette fougue et un peu de ce lyrisme. Mais je voudrais juste dire aussi qu'à Rome, dans la rue hier, il y avait aussi des milliers de citoyens et que aussi aujourd'hui on est dans un âge beaucoup plus démocratique et participatif. Il faut s'en remettre à des grandes personnalités, mais c'est aussi aux citoyens de prendre leur destin en main.
60 ans après le traité de Rome, 27 chefs d'État et de gouvernement ont donc signé la déclaration de Rome et non pas le traité, qui entend relancer l'Europe quelque peu enlisée et au milieu du guet. Rebondir ou périr, c'est le thème de ce Carrefour de l'Europe. Je vous présente les invités qui aux côtés d'Yves Bertoncini nous ont rejoints. Bonjour Sylvie Goulard.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée, vous siégez à Strasbourg sur les bancs de l'ADLE, l'Alliance des démocrates et libéraux européens, autrement dit le groupe centriste du Parlement européen, on peut dire ça ?
Centriste et pro-européen.
Centriste et pro-européen, ça va de soi. Daniela Schwarzer, bonjour, guten Tag.
Guten Tag et bonjour.
Merci d'être en ligne de Berlin où vous êtes la directrice de la DGAP. Allez, je vais me lancer. Deutsch Gesellschaft für Aufwärtige Politik. En français, on dirait comment ?
On dirait Conseil allemand pour les affaires internationales, donc un think tank, un institut de recherche.
Bonjour Eric Scholl.
Bonjour.
Directeur de Courrier International, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe, Courrier International, l'Edo, le site, et puis ce numéro spécial hors série que vous venez de publier et qui a pour titre l'Europe, virgule, la fin, point d'interrogation. On y retrouve à travers la presse étrangère toutes les interrogations que se posent les Européens sur leur avenir, Eric.
Ben vous savez, on a pris le procédé de Courrier International, c'est-à-dire qu'on a été allé chercher dans toute la presse européenne, et d'ailleurs même au-delà de la presse européenne. Par exemple, on a été rechercher des articles dans la presse sénégalaise, dans la presse russe, dans la presse américaine, sur l'Union européenne, sur cette construction, sur ce qui fonctionne, mais aussi évidemment sur ses dysfonctionnements. Alors, bon, les thèmes, on les connaît, on est allé regarder le thème des migrants, le thème du Brexit, le thème de l'euro, évidemment, les institutions européennes, et puis on s'est interrogé s'interroger sur la place de l'Europe face au monde. Et quand même, on a voulu regarder un petit peu devant nous, en s'interrogeant sur les solutions, et tout ça à partir d'articles, parfois des très bons textes, d'écrivains, de philosophes, d'essayistes, de toute cette presse. C'est ce qui rend si riche ce numéro, avec des cartes, avec des cartographies.
Alors l'Europe intéresse les Européens et au-delà, et qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils en pensent, quel est le constat?
Ce qu'on constate, c'est que il y a des désillusions, il y a cette grande réflexion sur les mouvements populistes qui ont vraiment fait beaucoup de mal à l'Europe. Il y a aussi quand même cette foi sur l'idée que l'Europe a apporté beaucoup. Je ne citerai qu'un texte, c'est qu'on reprend de The Economist, journal britannique, pas toujours en phase avec l'Union européenne, mais c'est un texte sur cette idée européenne, et on revient sur Stefan Zweig, qui lui avait pensé à cette Europe dans le monde d'hier, et qui disait, Stefan Zweig, et c'était, il reprenait, il citait lui-même Shakespeare, faisons face au temps comme il vient, échange, et au fond, c'est ces interrogations qu'on a 60 ans après 1957, aujourd'hui pour l'Europe, c'est-à-dire comment aborder cet ensemble de sable mouvant à l'extérieur, aussi à l'intérieur de l'Europe, et comment elle se réinvente.
Alors Sylvie Goulard-Éric Scholl vient en quelques mots de tracer les interrogations et les défis qui se posent à l'Europe. Sylvie Goulard, on a signé une déclaration de Rome 60 ans après le traité de Rome, qui tient en 3 pages. Alors est-ce que cette déclaration est à la hauteur de la situation? On y parle défis d'une Europe plus sûre et sécurisée, d'une Europe prospère et soucieuse de développement durable, d'une Europe sociale, d'une Europe plus forte sur la scène mondiale. Un peu tout ce qui a manqué ces dernières années et qui a entraîné une perte de confiance des Européens dans l'Europe.
C'est toujours bon que les chefs d'État et de gouvernement prennent le temps de se pencher un peu sur la question européenne et redonnent un cap. J'ai passé l'âge de penser que c'est par le Conseil européen que viendra le salut de l'Union européenne. Parce que, comme l'a dit très bien Yves Bertoncini, j'étais aussi à Rome. C'était assez frappant de voir tous ces gens dans la rue, l'ambiance, les jeunes italiens et non italiens, tout ce mélange un peu de citoyens qui avaient quand même envie, après le Brexit, après pas mal d'événements négatifs, d'exprimer leur foi dans l'avenir. Encore une fois, ce qui me frappe le plus en ce moment, c'est pas que l'Europe ait des défauts. Nos systèmes nationaux ont des défauts. Il y a des entreprises qui traversent des phases difficiles. C'est que dans ce genre de situation, il y a autant de gens qui envisagent à la légère de tout casser. C'est parfaitement légitime de vouloir...
De jeter le bébé avec l'eau du bain.
Exactement. Et c'est ça qui devrait faire réfléchir les citoyens. C'est que, encore une fois, ça arrive assez souvent dans la vie qu'il faille remettre les compteurs à jour, qu'il faille tenir compte de l'évolution du monde. Mais justement, comme cette évolution est particulièrement préoccupante en ce moment, vu le nombre de menaces qui s'accumulent soit à nos frontières, soit de défis énormes comme le changement climatique, par exemple, on n'a pas de temps à perdre, à casser tout ce dont on a hérité. Essayons d'améliorer les choses et d'être surtout un peu plus constructif.
Daniela Schwarzer, il y a depuis plusieurs semaines, tous les dimanches à Berlin, mais pas seulement, hein, de grandes manifestations où flotte le drapeau européen. Qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les Allemands de l'Europe, sachant qu'ils sont quand même les principaux bénéficiaires, en tout cas au niveau économique, et je fais référence aux excédents commerciaux qui sont astronomiques, et qu'ils sont en même temps très critiqués par les autres Européens pour leur rigidité budgétaire. Alors, où en sont les Allemands avec l'Europe? Quel constat fait-on à Berlin de l'état de l'Union?
Alors d'abord, pour le constat de Berlin, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement allemand restent complètement convaincus que la politique allemande s'encadre dans l'Union européenne et que même la politique étrangère allemande est réfléchie par le prisme de l'Europe. C'est-à-dire l'UE joue un très grand rôle. Et le gouvernement, en fait, en ce moment, passe beaucoup de temps à réfléchir à l'après des élections, parce que depuis des mois, la conscience est assez élevée qu'il faut aller en avant avec l'Europe, mais il nous manque un partenaire. Il y a aussi les élections en Allemagne, donc il y a beaucoup de réflexions qui se font pour la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine.
Quand vous dites qu'il nous manque un partenaire, il manque le partenaire français?
Oui, c'est surtout la France qui a fait, et l'Allemagne aussi, qui ont fait attendre l'Europe depuis assez longtemps, à mon avis, parce que je pense quand même si on dit aujourd'hui le franco-allemand n'est plus ce qu'il était, c'est peut-être vrai, mais s'il y a une initiative, à mon avis, une initiative importante, elle doit au moins passer par ces deux villes, mais évidemment, les deux doivent construire un consensus avec d'autres partenaires. Mais je veux bien revenir aux manifestations que vous avez évoquées, parce que pour moi c'est un signe très très important. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a des manifestations qui se font un peu en Allemagne, dans 35 villes la semaine dernière. Pour aujourd'hui, je ne sais pas encore, mais en fait ce sont des manifestations des citoyens, ils ne sont pas convoqués par des institutions européennes ou des partis politiques, mais vraiment une initiative citoyenne. Et l'idée est assez belle. Tout d'abord, c'est une expression de tous ceux qui participent que l'Europe reste quelque chose qui est important et qui reste à être complété et à construire. Et il y a un exercice à chaque fois, c'est un micro ouvert. Et alors les citoyens s'expriment à la fois sur leur expérience européenne et pourquoi ils sont convaincus que l'Europe est importante. Et après, ils lancent aussi des idées. Et il y a une sorte de débat ouvert. Et à mon avis, c'est très important d'aller dans cette direction parce que comme Sylvie Goulard et Yves Bertoncini l'ont évoqué, on ne peut plus attendre que les gouvernements vont résoudre ce problème. Il faut un soutien politique qui est beaucoup plus large et beaucoup plus important pour convaincre les leaders nationaux que c'est vraiment très important qu'ils renforcent l'échelle européenne, même si cela veut dire qu'on doit abandonner une souveraineté en partie au niveau national, mais souvent c'est une souveraineté qui en tout cas n'est plus complètement exercée aujourd'hui.
Alors ces manifestations, vous avez dit qu'il y a des milliers de personnes, mais enfin il y a aussi des millions d'Allemands, c'est une espèce d'avant-garde, c'est un sentiment qui traverse la population. Quel est l'état d'esprit des Allemands à propos de l'Europe? Alors il y a ceux qui sont pour et qui défilent dans la rue, il y a le gouvernement qui a une stratégie qui manque de partenaires, mais les Allemands en général, quel est leur état d'esprit à l'égard de l'Europe?
Alors, l'Allemagne reste en majorité toujours pour l'Europe, mais il y a quand même une critique qui s'est développée parce qu'il y a cette impression que le système ne fonctionne pas assez bien. Et surtout, et là je vois peut-être le plus grand risque politique, que les Allemands ont de plus en plus l'impression que leurs partenaires poursuivent des politiques qui ne font pas l'unanimité ou n'ont pas le soutien en Allemagne. Donc je prends l'exemple de la Grèce et dans l'avenir peut-être de l'Italie, que dans la zone euro, il y a des pays qui ont besoin d'un soutien financier, mais qui après font des politiques, ou avant font des politiques qui, du point de vue allemand, ne sont pas les bonnes. Et là, à mon avis, il y a une tâche très importante d'explication politique, à la fois pour expliquer aux Allemands la manière dont on profite depuis très longtemps, à la fois de l'intégration dans le marché intérieur, mais aussi de l'euro, et qu'on ne peut pas avoir une union monétaire qui fonctionne s'il n'y a pas les instruments nécessaires en place. Et le grand défi en Europe aujourd'hui, c'est de convaincre les Allemands qu'un élément de solidarité est très important, solidarité financière aussi, mais aussi de convaincre les autres qu'il faut respecter certaines règles et qu'il faut être responsable de leur propre politique.
Et ça comprend, évidemment, et ça, c'est d'abord les Français auxquels vous vous adressez. Yves Bertoncini, je reste au niveau de l'état d'esprit des Européens. Vous étiez à Rome hier, d'ailleurs comme Sylvie Goulard, et vous l'avez un peu évoqué, de grandes manifestations européennes, et d'autres qui l'étaient un peu moins, mais c'est tout de même le signe que les europhiles, qui sont pas forcément des Européens, on peut avoir confiance en l'Europe et la critiquer, sont en train de je dirais de relever un peu la tête. Est-ce que vous avez ce sentiment? Je m'adresse peut-être au président du mouvement européen France.
Oui, d'abord, je dirais que c'est le moment ou jamais, quand on fête un anniversaire de 60 ans, qui permet de mettre les choses en perspective, de souligner quand même tout le chemin parcouru. Parce que sinon, au quotidien, demain, on va reprendre les affaires normales. Il y a beaucoup de choses à critiquer dans cette Europe-là. Mais quand on marque un anniversaire aussi vénérable, il faut souligner les aspects positifs de l'entreprise. Et puis surtout, dans le monde actuel, il y avait des jeunes Européens aussi dans la rue hier, l'utilité de cette union. Puisque cette union, qu'est-ce qui la caractérise? C'est le départ de l'un de ses membres importants. Une fois que la procédure de divorce aura été menée à terme, elle va seulement être enclenchée. Mais disons, peut-être dans environ 2 ans, les Britanniques vont nous quitter. Pour le reste, les peuples qui sont peut-être plus eurosceptiques qu'auparavant, ils ne sont pas dans leur majorité europhobes. Ils vont rester, même les peuples d'Europe centrale. Donc ce qui la caractérise, cette union, c'est une crise de copropriétaires. La façon de sortir de cette crise de copropriétaires, c'est de regarder davantage par la fenêtre. Les jeunes générations peut-être regardent davantage vers le monde. Le traité de Rome, c'était un traité introverti, si je puis dire. C'était pour nous réconcilier par la voie marchande, même si les pères fondateurs pouvaient aussi avoir l'idée que plus tard, il y aurait une Europe puissance. Aujourd'hui, c'est ça qui fait débat. Nous sommes 6% de la population mondiale, et puis bientôt 5% quand les Britanniques seront sortis. Je crois que les jeunes, notamment, qui n'ont pas connu la guerre, mais qui connaissent des expériences de mobilité ou des expériences européennes, y compris quand ils quittent l'Europe, se sentent davantage européens et qu'ils voient sans doute autant que les anciens la nécessité de cette union. Je dirais qu'on est peut-être aujourd'hui, quand on regarde, et je terminerai là-dessus, sur l'état d'esprit de la génération intermédiaire, la génération des dirigeants actuels, dans cette génération effectivement intermédiaire qui n'a ni le sens tragique de l'histoire des anciens, sauf peut-être Angela Merkel, compte tenu de son histoire personnelle, ni l'enthousiasme juvénile des générations Erasmus. Si on arrive à passer ce cap dans le monde tel qu'il se dessine, plein d'opportunités mais aussi lourdes menaces, oui, on sent qu'il y a la possibilité d'un rebond pour la construction européenne.
Si Douglas, on a l'impression que l'Europe, c'est parfois une évidence, que l'appel à la démocratie, le respect des minorités, tout ça c'est une évidence, pas forcément, c'est avant tout une construction et c'est évidemment une construction très fragile.
Oui, je crois qu'il faut toujours... Alors c'est difficile, hein, c'est comme quand on est en bonne santé, on se lève le matin, on n'a pas tendance à se dire « super, je suis en bonne santé ». Il n'empêche que le jour où on affronte une maladie grave, on se dit « mais qu'est-ce que j'étais fou de ne pas avoir réalisé le bonheur d'être en bonne santé ». Ça, n'importe quel auditeur, je crois, peut comprendre. Mais c'est un peu humain. Non, moi je voulais rebondir sur une chose, parce qu'en fait on dit souvent que les pères fondateurs étaient introvertis. Et historiquement, c'est à la fois exact, c'est-à-dire que l'un de leurs objectifs, c'était la paix entre nous, mais c'était une génération qui avait aussi vécu, avec énormément de tragique, une autre chose, c'est-à-dire les terribles atteintes à la dignité humaine qui se sont passées sur le continent européen, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui voulaient défendre une civilisation. Et j'ai particulièrement envie de le dire à votre antenne, parce que on oublie que dans la déclaration Schuman, il était question de l'Afrique et des responsabilités des Européens pour un développement plus harmonieux du monde, pour plus de justice, en fait, à l'échelle de la planète. Et je suis très frappée de voir que chez certains souverainistes, qui diabolisent la mondialisation, il y a une forme d'égoïsme. Ce sont eux qui sont complètement introvertis, c'est pas les gens qui ont fait l'Europe. Parce que si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, bien sûr le fonctionnement de l'économie mondiale n'est pas satisfaisant, c'est pas ce que je veux dire, mais on a quand même sorti des millions et des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Le monde d'avant, c'était celui de la nomination de l'Occident avec une certaine appropriation des ressources, soit des pays colonisés, soit d'autres pays. Et donc, je crois qu'il est très très important, d'ailleurs Spack l'a dit tout à l'heure dans la déclaration que vous avez fait repasser à l'antenne, il y a ce sens de l'universel. L'Europe n'a jamais été faite pour se regarder le nombril. Elle est un principe de responsabilité. Elle est la volonté d'essayer de faire rayonner des valeurs, d'essayer aussi d'avoir une conception de l'économie et du modèle de société dans lequel on vit qui soit plus équitable. Le préambule du traité de Rome est très intéressant à cet égard. Puisque le préambule, alors que on sait bien qu'on avait fait ce traité parce que c'était en quelque sorte un second choix, on n'a pas pu faire une Europe politique, c'est d'ailleurs la faute des Français en 1954.
Déjà.
Oui, et ça me m'effraie qu'en France, on parle très très peu de cet échec profond de ce que les Français ont fait subir à leurs partenaires en ne ratifiant pas le traité qui aurait créé non seulement la communauté de défense, mais une communauté politique. Et donc, encore une fois, gardons ce sens de l'universel, gardons l'idée d'une responsabilité, notamment, comme l'a très bien dit Yves, pour les jeunes générations qui seront probablement plus motivés, par exemple, pour aller faire du franco-allemand ensemble en Afrique, pour aller creuser des puits, pour aller aider des gens à se développer, pour aller en Asie, pour aller en Amérique du Sud, plutôt que d'être, je dirais, dans une relation totalement étouffante. Et encore une fois, ce sont les souverainistes, ce sont les anti-européens qui, par leur obsession de l'identité, ferment toutes les portes et toutes les fenêtres de l'Europe.
Si Goulard, Yves Bertoncini, Eric Schurl et Daniel Schwarzer, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre les connaissances des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Géopolitique, le débat.
Cruzamento d'Europa.
Раскруча Европы.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous fêtons à notre manière les 60 ans de l'Europe, car de notoriété publique, l'Europe est née le 25 mars 1957 avec le traité de Rome signé à l'époque par les 6 pays fondateurs, la France, l'Allemagne, l'Italie, les 3 pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. 60 ans, c'est évidemment le moment de célébrer et de commémorer. Ce fut fait hier à Rome, mais c'est aussi l'occasion de s'interroger sur cette Union européenne passée de 6 à 27 membres, mais même 28 avant le Brexit. Une Union qui a vu ses compétences décuplées. Le marché commun est achevé. Avec Schengen, les Européens circulent désormais sans entrave d'un bout à l'autre du continent et l'euro est devenu une monnaie commune. L'Union européenne est incontestablement une réussite, mais sa bureaucratie, elle, est de plus en plus contestée. Elle est perçue par bon nombre de citoyens comme une partie du problème plutôt que comme un élément de la solution face aux difficultés qui s'accumulent. Je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints. Sylvie Goulard, eurodéputée ADLE. Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors et président du Mouvement Européen France. Daniela Schwarzer, directrice de la DGAP en ligne de Berlin. Et Eric Scholl, directeur de Courrier International. Courrier International qui vient de publier un numéro spécial hors série intitulé Europe, la fin, point d'interrogation. Numéro auquel RFI s'est associé. 25 mars 2017, c'était hier à Rome. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.
Nous avons réussi à doter ce continent d'une paix qui dure. Nous avons réussi à donner à ce continent une monnaie unique. Nous avons établi le plus grand marché intérieur au monde. Nous avons, par un énorme effort de volonté des peuples de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, réussi à unir, par des moyens pacifiques, l'histoire et la géographie européenne. Grande performance. Je vais signer, mes chers amis, la déclaration de Rome avec le stylo, la plume, devrais-je dire, quand employés ceux qui, en 1957, pour le Luxembourg, ont signé le traité de Rome. Il y a des signatures qui durent.
Alors, difficile de dire si les paroles de Jean-Claude Juncker entreront dans l'histoire, comme celle de Paul-Henri Spa qu'on a entendu tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Si l'Union européenne est aujourd'hui très critiquée, on peut tout de même rappeler, Yves Bertoncini, qu'elle est une construction politique unique en son genre, qui a, donc on l'a dit un peu en première partie, longtemps bien fonctionné.
Oui, puis il faut aussi surtout rappeler que Rome ne s'est pas faite en un jour, puisque le traité de Rome, c'était un signal d'unité qui a été lancé avec un marché commun, faute d'avoir pu, effectivement par faute des Français, s'engager dans une voie plutôt diplomatique et militaire. D'une certaine manière, peut-être que 60 ans après, on y revient un peu d'ailleurs au sujet diplomatico-militaire, mais en tout cas, ça a été une construction, le traité de Rome, parce que quand on reprend rapidement l'histoire de la construction européenne, il a fallu quand même qu'au moment de l'acte unique européen, on se décide enfin, entre guillemets, à tenir les engagements pris à Rome, puisque le marché commun proclamé à Rome, il n'a été réalisé qu'en grande partie en 92-93 et il n'est même pas complètement achevé pour autant qu'on doive l'achever. Je dirais qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans ce décalage temporel avec d'une part la nécessité de tenir tous les engagements du traité de Maastricht, 25 ans plus tard. Il y a une union économique et monétaire. L'union monétaire, les peuples, ils sont très attachés en dépit de tous ses défauts. Pourquoi ? Parce qu'elle nous protège face à la spéculation financière internationale et à la guerre des monnaies, aux dévaluations compétitives. Mais c'est vrai que l'union économique devrait être renforcée. Et puis surtout, à Maastricht, il y avait la politique étrangère et de sécurité, la coopération policière et judiciaire. On est aujourd'hui confronté à des défis majeurs sur ces deux points, le terrorisme islamiste et puis Trump d'un côté, le chaos en Syrie, en Libye, Poutine évidemment de l'autre. On verra si 25 ans plus tard, les engagements de Maastricht pourront être pleinement tenus. Mais comme vous l'avez dit, en effet, c'est une construction. Et ce qui s'est passé hier à Rome ne pouvait pas évidemment donner de résultats immédiats, d'autant plus qu'il faut attendre les élections en France et en Allemagne. Mais n'oublions pas que si ce sommet de Rome a eu autant d'éclat cette année, alors que pour les 50 ans à Berlin, il n'y avait pas eu grand-chose. D'ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement ne s'étaient même pas déplacés. La foule n'était pas présente non plus. C'est parce que les Britanniques ont décidé de nous quitter. C'était d'ailleurs bien leur droit. Ils ne nous ont pas encore quittés. Qu'il fallait donner un signal d'unité. Mais de la même façon qu'à Rome et à Maastricht, Il faudra juger de la portée de ce message d'unité, de la portée opérationnelle de ce message d'unité dans les années qui viennent, sinon les décennies qui viennent.
Donner du temps au temps.
Absolument. C'est nécessaire pour faire des compromis à 27 et jadis 28 bientôt.
Daniela Schwarzer, à quel moment la défiance s'est-elle installée entre l'Europe et les Européens? À quel moment situez-vous cette défiance qui est maintenant réelle puisqu'il y a des partis populistes à peu près dans tous les pays européens?
À mon avis, c'est tout d'abord la crise de l'euro qui a quand même démontré que l'Europe ne fonctionnait pas parfaitement, mais je ne sous-estime pas du tout l'effort qui a été fait. Et finalement, l'euro a été maintenu et il y avait beaucoup de progrès par rapport à la gouvernance de la zone euro, même si elle n'est pas complète. Mais je pense quand même qu'à ce moment-là, dans différents pays de l'Union européenne, les citoyens ont aperçu qu'il y a des problèmes de fonctionnement en Europe et que il n'y a pas une réponse qui est assez politique. Et c'était une réponse qui s'est occupée évidemment des marchés financiers, des
trop
questions
technique.
De soutenir les différents gouvernements et pays. Mais la réponse politique, dans le sens économique et social, est quand même une demande qui reste du côté des citoyens. Et on le voit, par exemple, en Allemagne, où tout d'un coup, on a un candidat à la chancellerie, Martin Schulz, qui est un sociodémocrate, qui arrive avec un discours pro-européen et très, très social. Et il paraît que les gens s'y intéressent et qu'ils trouvent que c'est une manière de répondre aux peurs qui ont quand même...
Une piste à suivre, c'est ce que vous êtes en train de dire. Éric Scholl, Courrier International.
Alors justement, sur ce thème, est-ce que ça veut dire que le thème de l'austérité qui a été... très vilipendé au cours de ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce qu'au fait, on a fait peut-être trop d'austérité et finalement, parler trop d'austérité, ça finit par attaquer l'idée de l'Europe?
Sylvie Goulard.
Alors, écoutez, moi, l'austérité, c'est un mot valise que je n'aime pas beaucoup parce que si on regarde très précisément les chiffres, on voit que les pays de la zone euro ont vécu des aventures très différentes ces dernières années. Il y a des pays comme la Grèce ou le Portugal où on a été obligé, non pas par une espèce de sadisme des autorités européennes, mais parce que la situation de ces pays s'était dégradée, en partie aussi à cause de comportements nationaux avant le début de la crise financière. Dans ces pays-là, on peut dire, comme par exemple le Portugal et la Grèce, qu'il y a eu de l'austérité. En France, la parole est inappropriée. Le niveau de dépenses publiques dans notre pays est 56%. On est presque 9 points au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Donc parler d'austérité en France, ça ne veut pas du tout dire la même chose, si tant est que ça veuille dire quelque chose, par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Et d'autre part, quand on regarde là aussi précisément les chiffres, les pays qui ont les taux de croissance les plus élevés en ce moment, la Banque de France a donné des chiffres récemment, ce sont les pays comme l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, dans lesquels un certain nombre de mesures, parfois douloureuses, mais de mesures, ont été prises. Dans les pays dans lesquels ces mesures n'ont pas été prises, et notamment la France et l'Italie, les taux de croissance sont beaucoup plus bas. Donc il faut arrêter, à mon avis, non pas de combattre des excès de certaines politiques dans les pays où elles ont pu, par exemple, avoir un impact sur la pauvreté, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut arrêter de généraliser. Il y a des pays qui sont au plein emploi dans la zone euro, vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel, il y a des pays comme l'Allemagne, mais aussi l'Italie, qui ont des excédents commerciaux importants avec le même euro, avec la même monnaie, avec les mêmes contraintes, et d'autres, comme la France par exemple, qui s'enfoncent dans des difficultés pour des raisons qui sont strictement nationales. Juste un petit mot par rapport à ce qu'a dit Daniela, dont j'apprécie énormément les analyses. Je me demande parfois si on a eu pas assez de politique ou trop de politique ces dernières années. Parce que quand même, il faut savoir une chose, pour les auditeurs c'est important, toutes les décisions concernant la Grèce par exemple ont été prises par les ministres de l'économie et des finances. C'est l'Eurogroupe qui a validé tous les programmes. C'est l'Eurogroupe qui a le dernier mot. Ce ne sont pas les autorités qui ont un pouvoir technique, comme la Banque centrale ou la Commission ou même le FMI. Or, en fait, donc, ce qu'on observe, c'est des politiques qui se carapatent, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, j'ai rarement rencontré des ministres de l'économie et des finances qui se félicitent ou qui, en plus, en tout cas, assument ce qu'ils font à Bruxelles. Donc, est-ce qu'il y a trop de politique ou est-ce qu'il n'y a pas assez de politique? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la politique politicienne lorsque le Premier ministre italien, M. Renzi, voué aux gémonies qui se décident à Bruxelles, alors même que, par exemple, en matière de résolution bancaire, ce sont des décisions qui ont été prises de manière démocratique avec l'accord du gouvernement italien précédent. Tout ça est quand même d'une confusion totale. M. Cameron a fait de la politique. De la politique intérieure. Il a fait passer l'intérêt du Parti conservateur, ou ce qu'il croyait être l'intérêt du Parti conservateur, avant la notion de politique européenne et avant même l'unité de son propre pays. Donc attention un petit peu à pas faire des chèques en blanc à des personnalités politiques qui, pour certaines, ont des comportements tout à fait responsables, pour d'autres, font objectivement des campagnes électorales sur le dos de l'Europe.
Yves Bertoncini, vous avez envie de réagir. Je ne sais pas si c'est au propos de Sylvie Goulard ou de Daniel Scherzer.
Les deux, mais en général, pour dire que l'Europe FMI, qui a dû être mise en place en Grèce, au Portugal, mais aussi en Irlande et à Chypre, c'était une parenthèse de la construction européenne. C'est si vrai que ce n'était pas du tout prévu par les traités de Maastricht. C'était même exclu qu'on aille au secours des pays s'ils étaient en difficulté, s'ils étaient étranglés par les marchés financiers. Si ces pays ont été étranglés par les marchés financiers, premièrement, c'est parce qu'ils avaient chacun fauté, dans un style différent, si on compare l'Irlande et la Grèce. Ensuite, l'Europe, avec le FMI, a été solidaire de ces pays, alors évidemment, avec une conditionnalité. Elle y a perdu sur les deux tableaux, parce que quand vous parlez de l'austérité, dans un pays comme la Grèce ou dans un pays comme l'Irlande, il y a eu de l'austérité. Oui, bien sûr, sans doute excessive. En tout cas, l'Europe a été vue comme porteuse de trop d'austérité. Mais n'oublions pas que dans d'autres pays, tout aussi valeureux et légitimes démocratiquement, cette solidarité a été jugée excessive. Si Alternative für Deutschland a émergé en Allemagne, c'est parce qu'un peuple, en tout cas une fraction de ce peuple, trouvait que cette solidarité n'allait pas de soi et était contre. Même chose en Finlande. N'oublions pas qu'en Slovaquie, un Premier ministre y a perdu sa position, parce qu'il a voulu faire voter l'aide à la Grèce et qu'on le lui a refusé. Il a été renvoyé sur un enjeu comme ça. Donc, ce n'est pas tellement la défiance entre l'Europe et ses peuples qui s'est installée. C'est qu'il y avait une défiance entre les peuples, et je reviens à ma crise de copropriétaire de tout à l'heure. Mais c'est vrai que, comme Sylvie l'a dit, cette défiance a aussi été souvent aiguisée par des responsables politiques qui ne prennent pas toujours leurs responsabilités quand ils ne se mêlent pas, comme récemment encore M. Dijsselbloem, de jeter de l'huile sur le feu en maniant des stéréotypes relativement éculé, pour ne pas dire pire, sur la fracture nord-sud, alors que, rappelons-le, je vais juste terminer là-dessus, l'Irlande n'est pas un pays du sud. Il y a eu un problème dans le cas de la zone euro, c'était un problème centre-périphérie, pour aller vite, mais c'est pas nord-sud. Et on a retrouvé la même chose dans la crise des réfugiés. Il y a des pays pour qui l'Europe aurait dû être plus solidaire. Je pense que les Allemands auraient attendu, par exemple, de nous, Français, davantage de solidarité. Mais il y a des pays comme la Hongrie où il n'était pas question d'être solidaire et où le Premier ministre hongrois a retrouvé une partie de son crédit politique, parce qu'il était en perte de vitesse, en instrumentalisant la peur des réfugiés dans son pays. Donc c'est vrai que l'Europe a souvent bon dos, et qu'au-delà de Bruxelles, en tout cas, rappelons-nous qu'elle rassemble 28 peuples, et qu'effectivement, ce n'est pas aisé, surtout en période de crise, de mettre en harmonie ces peuples, surtout quand leurs leaders n'y mettent pas du leur. Là encore, je redis que peut-être l'une des voies de sortie ou d'apaisement, c'est de regarder davantage ensemble vers l'extérieur. Non pas ce qui nous divise, mais ce qui nous unit, dans la diversité certes, mais par exemple face à Vladimir Poutine, face à des défis globaux, et parce que nous sommes européens dans le monde vu de l'extérieur déjà.
Sylvie Goulard, il y a quand même quelque chose qui est perçu par les Européens, c'est que ça ne fonctionne pas très bien au niveau des institutions. Alors vous qui les voyez de l'intérieur à travers le Parlement, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne va plus dans les institutions européennes, dans le fonctionnement de l'Europe au quotidien?
Alors d'abord, j'entends bien sûr ces critiques, il ne s'agit pas de les nier ou de les balayer du revers de la main. Il y a plusieurs choses. Je dirais que dans ce qui vient d'être dit, notamment par Yves, on voit bien que nous avons un problème sur le niveau d'exercice de la démocratie. C'est-à-dire, si vous prenez les décisions qui sont prises dans la zone euro, soit vous organisez un référendum en Grèce d'un côté, ou une élection en Allemagne, ou une élection en Irlande, en ne considérant que le peuple qui est concerné. Et parfois, on l'a vu en Grèce, en racontant des choses qui ne sont pas compatibles avec les positions des autres. Et dans ces cas-là, ça va coincer à un moment donné, puisque vous avez une décision qui est tout à fait légitime au niveau national, mais qui, comme elle n'a pas tenu compte de l'ensemble des parties prenantes, bien évidemment, va se heurter à la volonté d'autres qui est tout aussi légitime. Donc, il faut qu'on arrive à hisser la démocratie au niveau pertinent, qui serait le niveau de l'ensemble de la zone euro, déjà pour ça, hein, au moins pour l'euro, et arriver à des décisions qui soient beaucoup plus communes. Et pour ça, il suffirait que le Parlement européen puisse travailler dans des formations diverses. Moi, je ne suis pas du tout pour la création de nouvelles institutions. Je pense que c'est la dernière des choses.
Parce
que,
juste le Parlement de la zone euro, hein, le ministre des Finances de la zone euro, un budget de la zone euro, vous n'êtes pas pour?
Si, non, ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas favorable à la création d'autres institutions. Je pense qu'on a besoin d'une certaine dose de flexibilité. Peut-être que votre journal va parler du dossier qui est dans The Economist cette semaine, qui est un dossier qui dit, en gros, on a besoin de pouvoir s'organiser de manière plus souple. Et je le crois volontiers, à condition quand même qu'on ne perde pas de vue le fait qu'il faut que chacun assume toutes les responsabilités liées à la qualité de membre, etc. Donc ce à quoi je ne suis pas favorable, c'est la multiplication d'institutions à l'extérieur des institutions, parce qu'à la fin on n'y comprendra plus rien. Ce que vous dites des citoyens est à la fois vrai, il y a cette frustration, mais il n'y a pas des manifestations dans la rue de gens qui demandent une nouvelle assemblée pour légitimer la zone euro. Donc essayons de travailler de manière pragmatique. Ça existe dans d'autres parlements, ça existe dans un pays comme l'Allemagne. Vous pouvez avoir par exemple les pays de la zone euro pour lesquels les députés européens se réuniront pour pouvoir par exemple contrôler les fonds de secours qui ne sont abondés que par les pays de la zone euro et pas par les autres. Quand on désigne le président de la Banque Centrale Européenne, il vaudrait mieux que ce soit les pays qui sont d'accord pour faire partie de l'euro et pas les autres. Si on fait la même chose pour Schengen, on peut très bien imaginer que les députés votent dans une formation un peu plus réduite, quitte à ce que les autres soient présents, et c'est ça l'intérêt de le faire dans le même cadre, et qu'on inclut tout le monde. Donc le premier problème, c'est la démocratie, mais pas, je dirais, vous savez, au niveau national, la démocratie fonctionne pas très bien non plus. On le voit avec les affaires en France et tout, je crois pas que les gens aient une confiance éperdue dans les autorités nationales non plus. Il faut améliorer les choses à tous les niveaux. Mais la deuxième priorité, c'est aussi d'agir. Et ce n'est pas seulement par l'amélioration des structures, par l'amélioration des procédures, c'est en affrontant un certain nombre de sujets. Moi, je préside l'intergroupe de lutte contre la pauvreté au Parlement européen. Essayons de mettre la pauvreté, la lutte contre les inégalités dans l'agenda de nos chefs d'État et de gouvernement.
Ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Ça ne l'est pas suffisamment. Ça l'a été avec des textes qu'on a appelés la stratégie 2020, ce qui était déjà une première étape. Et il faut rendre hommage, c'était la commission Barroso qui l'avait fait. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Quand on dit avoir des contrôles aux frontières, on peut le faire dans le cadre des traités existants. Moi, je me méfie, si vous voulez, du grand chantier institutionnel qui donnera encore l'impression aux gens qu'on part sur une fausse piste. Essayons, avec les outils que nous avons, par des pratiques, le cas échéant, qui n'étaient pas prévues par les traités, d'améliorer les choses concrètement pour la vie des gens.
Éric Scholl, Grenier International.
Je voudrais revenir sur ce mois de mars 2017. Hier, c'est la célébration du 60e anniversaire du traité de Rome. Il y a une autre date qui restera évidemment dans ce mois de mars et qui, elle, donne un tout autre regard sur l'Europe. C'est le 29 mars avec le déclenchement de l'article 50. Donc, en fait, le déclenchement du Brexit qui prendra, vous le rappelez tout à l'heure, peut-être 2 années. Est-ce que ce déclenchement, ce n'est pas quand même une fragilisation de l'Europe, sans langue de bois? Je vous pose la question à tous les trois.
Cécile Boulard, en une minute.
Oui, rapidement, moi j'étais favorable à ce que les Britanniques restent. Le peuple britannique a voté, il faut que nous organisions ça. Historiquement, si on prend le recul de regarder ce qui s'est passé au moment de la CECA, dans le fond, les Britanniques ne veulent pas d'un système supranational. Et à l'époque, Jean Monnet, en 1950, très proche des Britanniques, avait dit s'il n'accepte pas une cour de justice, des règles communes, quelque chose qui va au-delà de la coordination, eh bien ils n'ont pas leur place dans l'Europe. À certains égards, je le regrette, mais c'est une clarification aussi. Et donc nous allons pouvoir peut-être repartir sur des bases plus saines qu'avoir un partenaire qui a empêché d'avoir un budget supranational, qui critiquait en permanence tout ce qui venait de Bruxelles. Ça va peut-être pour nous-mêmes aussi nous priver d'un prétexte et de gens derrière lesquels nous avions un peu tendance à nous cacher.
Daniela Schwarzer à Berlin sur le thème du Brexit, une chance ou une catastrophe?
Alors, je pense les deux, parce que pour les Britanniques, ce sera sans doute pas une situation très agréable de se trouver un moment en dehors de l'UE et du marché intérieur. Mais pour l'Europe, à mon avis, c'est une chance qui est à saisir, dans deux sens. À la fois, pour enfoncer l'Union européenne, et après, quand les négociations avec le Royaume-Uni soient terminées, il est très important d'être très conscient du fait qu'il faudrait une relation très étroite avec le Royaume-Uni en matière notamment de politique de défense et de sécurité, parce que là, le Royaume-Uni reste quand même un partenaire très très important au sein de l'OTAN, mais aussi dans des relations bilatérales, notamment aussi avec la France. Et voilà pourquoi je pense à la fois il faut négocier la sortie du Royaume-Uni et se préparer à l'avenir, parce qu'on doit avoir une relation stratégique importante, notamment vu que le monde change autour de nous.
Yves Bertoncini, Brexit, d'un mot, une chance ou une malchance pour l'Europe, elle ?
Un divorce, d'abord c'est coûteux, quand il sera intervenu, hein, parce que les médias ne nous annoncent pas à nouveau le 29 mars que ça y est, le Brexit a eu lieu. Le Brexit n'a toujours pas eu lieu. Il va falloir négocier, dans 2 ans il y aura un divorce, ça sera coûteux, je pense, d'abord pour les Britanniques, même si moi non plus je ne souhaitais pas qu'ils partent, mais aussi pour les partenaires européens, donc il faut réduire les coûts au minimum. C'est une amputation d'une certaine manière, une amputation c'est douloureux, mais ce n'est pas mortel. Je crois que c'est une exception, hein, cette europhobie britannique qu'incarnaient si bien les tabloïds, on ne la retrouve pas sur le continent. On voit des euroscepticismes de divers niveaux, il y a de l'europhobie évidemment, y compris en France portée par le Front National, je ne la crois pas majoritaire, et ça peut être une opportunité en effet, notamment en matière de sécurité collective, non pas tant parce qu'ils s'en vont, mais parce qu'il faut se défendre. Le monde est dangereux. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, le fait que Donald Trump ne soit plus un allié aussi sûr, le fait que les Britanniques sortent, ça peut peut-être permettre d'avancer davantage en matière de sécurité collective. On l'a vu dès le mois de décembre dernier, quand finalement, on a pu mettre sur les rails une forme de quartier général européen, que les Britanniques ont toujours bloqué, un fonds européen de recherche en matière de défense. Je crois que Theresa May, d'ailleurs, a dit dans ce Conseil européen, vous savez que je suis contre ces initiatives, mais la situation étant ce qu'elle est, je ne m'y opposerai pas. Donc ça, c'est un signal que c'est une opportunité, même si, encore une fois, comme tout divorce, c'est d'abord une mauvaise nouvelle.
Alors, rebondir ou périr, la Commission européenne a présenté un livre blanc il y a quelques semaines qui imagine 5 scénarios pour l'Union européenne à l'horizon 2030-2050. Hein, voilà. Alors, qui veut les décrire rapidement, ces 5 scénarios, mais vraiment très rapidement, Sylvie Goulard.
Oui, mais je pense pour les auditeurs, le plus important, c'est moins de retenir le détail de scénario que de comprendre l'astuce très intelligente du papier de la Commission. C'est de dire en gros, voilà, je pense que le meilleur exemple, c'est une compagnie aérienne. Soit vous avez une compagnie aérienne low cost, et les gens savent, il faut payer pour le moindre bagage en plus, il faut payer pour avoir son
siège. Parfois même pour aller aux toilettes.
Voilà, exactement. Soit vous êtes sur une compagnie dans laquelle vous êtes en business, et là, les prestations sont meilleures. Et ce que la Commission a fait dans un tableau, c'est de dire aux États, voilà, vous avez une option low cost, pas chère, mais alors vous en aurez pour votre argent, ça sera pas confortable, et ça nous mènera pas très loin. Et puis vous avez des options qui sont plus élaborés, plus sophistiqués. Mais là, attention, ça va vous coûter plus cher, parce que dans la vie, on n'a rien sans rien. Or,
c'est un engagement, quand même. Politique.
Mais par exemple, si vous voulez, de quoi on a souffert ces dernières années? Ils nous ont tous vendu qu'il y avait une politique étrangère et de sécurité commune. Ils nous ont vendu l'Europe de la défense. Ils nous ont vendu la prospérité. On devait être la zone la plus compétitive du monde en 2010. Tout ça n'est pas advenu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis les moyens qui vont avec les prétentions. Il faut des moyens de compétences, qui peuvent être d'ailleurs étroites. Moi, je suis pour des transferts étroits de compétences à Bruxelles. Mais que quand on transfère vraiment, que ce soit clair, et que quand les choses sont faites ensemble, elles ne sont pas faites au niveau national. Et puis, il faut des moyens budgétaires. Là aussi, le départ des Britanniques, à mon avis, va être une bonne chose. J'ai entendu Sigmar Gabriel, quand j'étais avec Emmanuel Macron à Berlin récemment, dire une chose que j'avais rarement entendue en Allemagne, c'est-à-dire peut-être qu'il va falloir augmenter le budget européen. Parce que si on veut faire de la recherche et de l'innovation, du contrôle aux frontières, de la défense, on ne peut pas avoir le budget qu'on avait pour la PAC et les fonds structurels. C'est aussi du bon sens dans toutes les familles, on le sait bien. Il faut arbitrer en matière de budget. Donc c'est ça l'intérêt. Les scénarios sont toujours un peu artificiels. Vous savez, vous avez toujours le scénario qui va très loin, celui qui va moins loin. Mais l'intérêt, c'est de faire apparaître que si on veut faire l'Europe sérieusement, il faut s'en donner les moyens. Et vous savez quoi? Ça marche. Parce que regardez par exemple la Banque Centrale Européenne. Pour une fois, on n'avait pas lésiné. On a créé une entité qui avait des pouvoirs clairement définis. Et trois, avec un mandat qui est souvent critiqué, mais qui au moins est clair, et le job a été fait. Donc ça marche, on peut le faire, mais à condition de s'en donner les moyens.
Allez, on arrive au terme de cette émission. En une minute chacun, l'Europe en 2030, Daniela Schwarzer, elle va ressembler à quoi ?
Ce sera une Europe plus différenciée, c'est-à-dire un petit groupe de pays qui sera plus intégré au cœur de ce noyau. Il y aura la France et l'Allemagne, mais aussi d'autres. Et les autres sont associés selon leurs intérêts, et notamment en matière de défense et de sécurité. Nous allons au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui.
2030, Yves Bertoncini, une Europe à plusieurs vitesses, comme l'évoque Daniela Schwarzer.
Une Europe à pleine vitesse, j'espère, mais à plusieurs niveaux, en effet. Parce que quand on regarde la lutte contre le changement climatique, l'organisation de la transition énergétique, il faut rester à 27 pour faire ça. En revanche, effectivement, si on va au sujet Schengen, hein, lutte contre le terrorisme, là, on arrivera à avancer, j'espère, à pleine vitesse, hein, parce que pour lutter contre le terrorisme, il faut aller très vite, mais dans des cercles restreints, peut-être niveau Schengen, voire même plus petit, parce que pour échanger du renseignement, par exemple, c'est très difficile à faire à 22. En matière de convergence fiscale, lutte contre l'évasion fiscale, là, ça sera peut-être davantage au niveau de la zone euro, idem pour créer, par exemple, un fonds de réassurance chômage européen. Donc, je crois qu'il faut éviter, d'ailleurs, l'usage de ce terme de plusieurs vitesses, parce que ça donne l'impression à des pays qui sont laissés sur le chemin, sur le bord de la route. Je dirais donc plutôt une Europe que j'espère à pleine vitesse, mais effectivement à plusieurs niveaux.
C'est Lougoulard, un risque de désunion en 2030 ou pas?
Non, pas du tout. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires et de se faire peur et de gâcher nos chances. Franchement, ça sera probablement exigeant, mais à quelques-uns, et notamment avec les Allemands, parce que Daniela a raison, je suis sûre qu'en Allemagne, les gens seront pour. Si nous prenons, nous Français notamment, nos responsabilités, nous allons pouvoir redémarrer dans des sujets aussi importants que la sécurité et l'économie.
Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Je vous rappelle le numéro spécial hors série de Courrier International, Europe la fin, point d'interrogation, disponible dans tous les kiosques pendant au moins un mois et même un peu plus. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone via RFI.fr ou les applis mobiles, mais gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesescal, où que vous soyez, à Rome, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Au revoir Daniela, à Wiedersehen.